BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
On va parler cybersécurité avec nos invités. Vous avez certainement entendu parler de Claude Mythos. Voilà la nouvelle IA de Anthropic et qui a pas mal parlé cybersécurité. On va vraiment regarder cela dans le détail avec nos invités. Benoît Grunewald, bonjour Benoît.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, expert en cybersécurité chez Izet. Izet France, bien entendu. Pascal Le Digol, bonjour Pascal.
Bonjour.
Directeur général de France de WatchGuard. Et Jérôme Billois, associé cybersécurité chez Wavestone.
Bonjour.
Jérôme, merci d'être là tous les trois. Benoît, tiens, je vais commencer par toi. Donc, on l'a vu arriver. Alors, nous, ce qui a été un peu particulier, parce que d'habitude, quand on a les annonces, alors que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, que ce soit Google Gemini, on le découvre un peu dans la presse américaine. C'est... Là, ils nous ont dit, attention, on a quelque chose à vous annoncer. Ce sera sous embargo jusqu'à 20h. La conférence de presse, enfin, il y a vraiment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, 20h, je crois que c'était mardi, enfin, un mardi soir, on annonce ce Claude. Alors le projet s'appelle
Glasswire.
Glasswing. Et donc sortie de ce Claude Mythos. Et alors c'est toujours paradoxal, hein, nouvelle. C'est une IA tellement puissante que justement on va pas la mettre entre toutes les mains parce que justement si elle est tellement puissante, c'est qu'elle peut descendre en profondeur et détecter des failles. Et là, ça voudrait dire que si on la lâche dans la nature tout de suite, ben les entreprises pour patcher, ça va pas le faire. Donc soyons plus prudents que ça.
Oui, parce que c'est déjà un gros problème d'ailleurs de patcher pour toutes les entreprises. Ça fait partie de la défense en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut mettre un certain nombre de couches et patcher ces applications. Ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et cette intelligence artificielle lancée à grand renfort de marketing tel que vous le décrivez, hein, ça a été un beau lancement, ce qui fait aussi partie du succès. Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui a la capacité d'aller chercher beaucoup de vulnérabilités, d'étudier le code et de pouvoir comme ça retrouver des vulnérabilités dans un code qui malheureusement est déjà en production. Donc ça veut dire que toutes les applications que l'on peut avoir peuvent potentiellement être auditées et donc sur lesquelles cette IA va trouver des vulnérabilités qui permettraient. Le bon côté, c'est de corriger ces vulnérabilités pour les éditeurs.
Le mauvais côté, c'est de les mettre au grand jour.
Exactement.
Parce que justement, les patchs auparavant, enfin moi je me souviens du patch Tuesday chez Microsoft, là, c'était tous les mardis, on mettait à jour, et puis donc les entreprises mettaient ou pas d'ailleurs. Mais là, ça veut dire qu'il faut presque... la grande crainte, c'est ça, c'est que les entreprises n'aient pas le temps. C'est ça,
oui, on parle de patch en temps réel maintenant, hein, c'est-à-dire que c'est... Fini le patch Tuesday, c'est aujourd'hui la nécessité, c'est de savoir quels sont les éléments qui constituent à la fois nos équipements, mais également ceux auxquels on dépend. Donc on parle beaucoup de supply chain, notamment des logiciels libres, des logiciels tiers. Et à partir de là, eh bien, il va falloir monitorer tout cela pour savoir ce que l'on doit patcher effectivement quasiment en temps réel.
On s'était envoyé quelques messages là entre nous lorsque Claude est arrivé. Jérôme, tu m'avais dit très rapidement, le gros souci c'est la vitesse de ces patchs, quoi, de ces correctifs.
Hein. Oui, on quitte le patch Tuesday qui était le patch mensuel à ce qu'on appelle maintenant le patch streaming, c'est-à-dire qu'on va regarder en temps réel les patchs arriver, il va falloir les appliquer en temps réel. Ça, c'est un vrai souci parce que les entreprises, malheureusement, n'ont pas toujours un inventaire complètement à jour des systèmes parce que ça bouge très vite. Et puis aussi parce que ces patchs, il faut quand même les tester. Ouais. Parce que si jamais
il y a
un bug dedans et derrière l'application, elle ne marche plus, on ne peut plus consulter ses comptes sur son appli bancaire ou réserver un billet d'avion parce qu'on a appliqué un correctif, on a un problème. Et c'est vrai qu'il y a une différence de temps, de rythme, qui est en train de s'installer très fortement, avec des IA qui trouvent des failles et des correctifs à la volée, comme ça, par centaines. Et puis derrière, des équipes de défense qui, elles, aujourd'hui, sont sur des rythmes mensuels au mieux, parce qu'il y a aussi des périmètres où c'est très peu sécurisé. Donc, je pense que ça va amener aussi une transformation qu'il faut anticiper dès maintenant, c'est justement l'apport de l'intelligence artificielle pour la défense. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir écrire des correctifs beaucoup plus vite, beaucoup mieux, mais il va falloir aussi que, vu qu'on ne pourra pas appliquer tous ces correctifs aussi rapidement, que les systèmes de défense, en amont, finalement, à la périphérie des systèmes, soient capables d'analyser ces menaces en temps réel et de les interrompre aussi en temps réel. Donc, il va y avoir une vraie transformation du secteur de la cybersécurité.
Parce que d'un côté, donc on a cette IA qui va continuer à s'améliorer, donc aller encore plus vite pour détecter tout ça. Et quand tu dis dans l'entreprise, ça veut dire qu'en amont, enfin, elle doit toujours être en train de faire des tests.
Ah oui, en fait, ce qu'amène l'IA de manière large, hein, c'est la vitesse. Si on regarde les détections de failles de vulnérabilité, reprochons-nous un an et demi en arrière, hein, c'est quand même pas si loin que ça. On est sur Google qui fait une annonce fracassante avec un modèle d'IA qui s'appelle Big Sleep, qui a trouvé deux failles dans des logiciels que tout le monde utilisait, entre autres OpenSSL, qui est la bible du chiffrement pour protéger les données. Et là, branle-bas de combat, l'IA trouve des failles, etc. Ensuite, on passe aux annonces de l'année dernière. Là, on est sur les annonces aussi liées à Claude et à l'arrivée donc Anthropic et l'arrivée d'Opus 4.6 qui a trouvé des centaines de vulnérabilités. Et là, on passe à Mythos qui en trouve des milliers et dans des systèmes qui avaient déjà été audités manuellement par des experts depuis des années. Et donc, cette accélération, elle est exponentielle et elle amène finalement à avoir un besoin d'une réaction exponentielle aussi dans les entreprises.
C'est ça cette difficulté, Pascal, cette réaction.
En termes de production, ça va être un problème. On patche pas un serveur comme ça à la volée. En tout cas, pas aujourd'hui.
Oui, c'est pas. Évidemment, on pense toujours au pansement. Voilà, c'est pas juste. On applique un pansement et on attend que ça.
Déjà, faut un reboot alors que c'est un serveur de production. Donc déjà, ça pose un problème. Hein. C'est ces fenêtres des fenêtres d'upgrade. Après, ça faut aussi voir le global. C'est-à-dire que certes, ça apporte. Ça nécessite un patching beaucoup plus rapide et quasiment à la volée.
Le streaming,
parce que sinon on laisse une fenêtre de tir en fait aux pirates en face. Donc on va devoir le faire à la volée. Maintenant, on peut aussi se dire que l'IA va pas apporter que sur les zéro day, mais aussi sur la stabilité du code et peut-être justement ces tests vont être de moins en moins nécessaires parce qu'il y aura pas de crash parce que le code aura lui aussi été testé vis-à-vis de ça.
Parce que s'il faut prendre un peu de recul là-dessus, c'est aux éditeurs aussi du coup partie tous les deux à être un peu plus ce dont on parle depuis pas mal d'années, le secure by design, chose que alors, chez vous je pense que oui c'est dans l'ADN des entreprises, enfin, c'est dans l'ADN de vos entreprises, mais bon c'est pas le cas chez tout le dans le domaine des éditeurs de la cyber, je ne sais pas, mais en tout cas dans le domaine des entreprises qui développent leurs propres applis, c'est pas toujours le cas.
Non, et puis il suffit de nous prendre comme un exemple, hein. Même si on est sensibilisé, tous les éditeurs de la cyber ont leur vulnérabilité, on a tous on publie tous les CVE quand on en a, certains en ont plus que d'autres, etc. Mais on en a tous. Donc si nous, qui sommes sensibilisés, en avons beaucoup, effectivement, de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, Mythos, c'est une bonne nouvelle. Ça va dépendre comment il est mis à disposition, de qui, comment, à quel coût.
Alors là justement, ils ont signé avec, ils ont annoncé tout de suite pas mal de signatures avec Microsoft, Palo Alto, CrowdStrike, enfin tous les acteurs.
Oui, il y a des happy few effectivement qui ont accès à des versions du coup sans restriction parce qu'aujourd'hui, mis à part ces quelques happy few, le code n'est pas disponible. En ce qui concerne l'utilisation pour la défense, moi ça me fait immédiatement penser au CRA, le nouveau règlement qui arrive, Cyber Resilience Act, qui un peu comme nous, effectivement, éditeurs de sécurité, avons une notion du code Secure by Design, by Default, une notion aussi de divulgation. C'est-à-dire que quand on trouve des vulnérabilités, on fait en sorte que l'éditeur, celui qui est concerné, ait le temps, on l'avertit, il ait le temps de corriger et ensuite de déployer, ou en tout cas de donner la possibilité à ses clients de déployer les correctifs. Et en fait, avec cette IA, c'est pris en compte lors du C par le CRA, par les développeurs, eh bien ils vont pouvoir ajouter des éléments qui vont renforcer le security by design et par défaut de manière beaucoup plus forte que ce qui peut être fait aujourd'hui avec juste l'œil humain.
C'est-à-dire ce que nous dit Benoît, c'est que les éditeurs, enfin les acteurs de la cyber, ils sont pas en retard par rapport à des pirates qui pourraient exploiter ces
ou pas en retard alors. Par rapport à des pirates, aujourd'hui, on voit il y a toujours une course. Hein, si on regarde, comme on le disait à l'instant, il y a beaucoup de failles dans des produits de sécurité aussi, comme il y en a beaucoup dans des produits grand public, des produits d'entreprise, etc. Donc je pense que c'est une course en continu. En fait, la question, c'est qui a accès aux derniers modèles d'intelligence artificielle et comment ils vont être utilisés. Parce qu'à partir du moment où ces modèles vont être ouverts largement et pourront être accessibles et un peu détournés par des cybercriminels, là oui, il y a un vrai risque. La question intermédiaire aujourd'hui, c'est les autres États, les services de renseignement, etc. Ils sont aussi extrêmement intéressés parce que ça leur permet de créer des clés numériques pour entrer dans tous les systèmes sans être vus. Donc on voit bien l'intérêt pour beaucoup de pays. D'ailleurs, Anthropic, à la fin de son communiqué, hein, une petite phrase très sibylline qui dit « Nous restons ouverts avec tout échange avec le gouvernement américain ». On sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec le Pentagone. Là, ils ont quand même...
Voilà. Et quitte à ce qu'il soit, même Donald Trump avait mentionné à un moment de les mettre sur une potentielle liste noire.
Ah ben, ils ont été mis sur la liste noire, ils ont fait appel. J'ai cru voir que justement l'appel avait été rejeté. Mmh. Aujourd'hui, l'administration Trump a dit on ne veut voir aucun logiciel anthropique au ministère de la Défense, mais aussi dans toutes les administrations américaines. Ouais. Et là, ils se coupent finalement quelque part d'une capacité d'innovation qui est extrêmement utile pour eux. Mmh. Donc voilà, il y a
un business récurrent, enfin voilà, des revenus récurrents, et puis on sait bien que c'est tout ça qui a donné lieu aussi à ce qu'on voit avec la NASA, ce qu'on voit avec la Silicon Valley aujourd'hui.
Et il y a un point intéressant sur les Happy Few que citait Benoît. Si on prend la liste de tous ceux qui ont eu accès en avant-première, parce que ça leur donne aussi un avantage concurrentiel quelque part, il y a évidemment les grands opérateurs du numérique, et là c'est sûr qu'il faut sécuriser Microsoft, Google, Amazon, parce que sinon on a un risque pour la continuité du fonctionnement de beaucoup de services qu'on utilise. Mais il y a une banque aussi. Il y a JP Morgan Chase dans la liste. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les sphères des grandes entreprises, et en particulier de la finance. Il y a eu, aux États-Unis, une réunion d'urgence entre le ministère de l'économie là-bas.
C'est vrai, c'était vendredi, je crois.
Voilà, le patron de la Fed, Jerome Powell, avec les grandes institutions financières. Le Royaume-Uni a fait la même chose. Il y a la FCA et la Banque d'Angleterre qui se sont réunis, parce que on est là face quand même à un vrai risque qui pourrait amener, si des failles sont trouvées dans les logiciels bancaires aussi, à potentielle fuite de monnaie, indisponibilité des systèmes, etc., qui peuvent être graves. Donc voilà, on voit qu'on sort de la sphère juste technologique et qu'on va vraiment sur une sphère beaucoup plus large.
Donc ça veut dire à la fois des codeurs qui doivent mieux développer le design, mais qu'est-ce que ça signifie aussi, parce que c'est vrai que quand on parle maintenant de cloud, de toutes ces versions-là, on se demande s'ils ne sont pas en train de quelque part ubériser un peu les solutions traditionnelles de sécurité. Est-ce que sur les solutions de détection d'intrusion, ce genre de choses,
non, je ne crois pas que ça soit l'objectif principal.
Je profite de vous avoir vu là en plateau, parce que justement on se dit, mais si ce cloud, je suis vraiment très basique, si ce cloud Mythos permet de détecter les vulnérabilités, à quoi ça sert que je m'engage avec des éditeurs qui font la même chose, qui font la détection d'intrusion, pour comprendre un peu la nuance entre les deux.
Parce que quand on détecte des failles et des vulnérabilités sur un système ou sur une application, ce n'est qu'une partie de ce que l'on va appeler la kill chain, que l'on pourrait, Mitri Attack, nous divise ça en 13 étapes. Et donc, dans les 13 étapes qui permettent d'arriver à la fin de l'opération, par exemple un rançongiciel, cette opération qui est l'exploitation de vulnérabilité est un élément parmi d'autres.
D'accord.
Et ça n'enlève pas le fait...
Ça ne vient pas remplacer...
Voilà, ça n'enlève pas le fait que il y a un moment, il faut savoir quelles sont les sociétés et ou systèmes d'information qui contiennent des logiciels qui contiennent des failles. Mm-hmm. Donc, il faut faire de l'analyse. Il faut également savoir si je vais rentrer avec l'aide d'un login et d'un mot de passe qui va me permettre peut-être d'atteindre une application qui n'est pas disponible sur Internet, mais que je sais qui est utilisée par l'entreprise. Donc, bon, dans ces 13 étapes, à mon avis, il y a encore du boulot pour un grand nombre de protections, de couches de protection que l'on appelle la défense en profondeur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de minimiser la progression des attaquants, de les détecter le plus vite possible lorsqu'ils tentent de rentrer dans le système d'information. Et c'est pour ça qu'avant, on disait, j'avais un antivirus. Ça suffisait. C'est pas vrai, ça suffisait pas. Mais on disait, j'ai un antivirus, ça suffit. Aujourd'hui, on va mettre un EDR, on va mettre XDR, on va mettre des firewalls, on va mettre des VPN, on va mettre de l'authentification multifacteur. Et en fait, tout ça vient s'empiler et l'exploitation de failles est un élément parmi d'autres qui permet.
C'est décentrer les failles, Pascal.
Oui, ça veut dire qu'on va devoir mettre encore beaucoup plus d'IA dans nos défenses pour contrer les IA d'attaque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le dossier de Mythos, justement, il était capable lui-même d'écrire des exploits qui lui ont permis de sortir de sa sandbox. Donc ça va quand même assez loin. Après, je rejoins Benoît, c'est un pan de la cyber, les vulnérabilités. Alors pour l'instant, il s'est attaqué à ce pan-là. Et encore, Mythos n'a pas été fait pour de la cyber. C'est-à-dire aujourd'hui, ces résultats-là sont faits sans optimisation pour la cyber.
Donc, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler.
C'est violent, en fait. Quand ils vont optimiser pour la cyber, ça va piquer un peu. Mais effectivement, c'est qu'un pan. Si on parle d'ingénierie sociale, on en parle régulièrement entre nous.
Fake.
Voilà. Alors pareil, quand ils vont s'attaquer à l'ingénierie sociale, ça va être autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est la vulnérabilité. Donc c'est important. C'est important de voir ce que les attaquants vont en faire aussi, parce que certes, il y a Mythos, mais je crois qu'ils indiquaient une avance d'à peu près 6 mois. C'est presque optimiste, je trouve. Très probablement, on va avoir des modèles utilisés par des pirates très bientôt.
Oui, et puis c'est toujours le côté paradoxal de ce type d'annonce, quoi. C'est de dire Nous, on est pour la diffuser au plus grand nombre. Par contre, c'est un peu. Moi, je trouvais que c'était assez opportun de le sortir en ce moment parce qu'on sait qu'il y a eu toutes les histoires entre OpenAI, le Pentagone, enfin entre Anthropique et le Pentagone. Après, OpenAI qui dit bah nous, on veut bien reprendre le contrat. Enfin bon, c'était. Il y a un peu d'image aussi là-dessous.
Oui, ça toujours. Et évidemment, il y a une espèce de course marketing par les monstres de l'IA, en particulier Anthropique et OpenAI, qui ont déjà utilisé cette histoire de dire attention, ce qu'on produit est trop dangereux, il faut déjà qu'on le vérifie bien avant de le révéler. C'était sur les attaques terroristes, bactériologiques, etc. Parce qu'effectivement, les modèles, on peut leur demander n'importe quoi, et des fois, ils ont les bonnes réponses sur des choses où on n'aimerait pas qu'ils aient les bonnes réponses. Donc, il y a ce qu'on appelle des guardrails, des garde-fous qui sont ajoutés dans les modèles. Et d'ailleurs, sur la mise à disposition de Mythos au plus grand nombre, Anthropique a bien dit qu'ils allaient le faire. Et que justement, ils étaient en train de développer des nouveaux garde-fous autour du modèle pour éviter que ces systèmes puissent être détournés. Alors, il faudra voir la solidité des garde-fous. Aujourd'hui, nous, quand on teste avec nos équipes sur le terrain les garde-fous, on arrive toujours, à un moment ou un autre, à les contourner, à tourner autour. Donc voilà, il y a un vrai enjeu, bon, à la fois de marketing, mais il y a quand même un track record, il y a quand même des preuves de ce qu'a déjà fourni Anthropique et de la qualité de leur modèle. Et quand on voit la réaction même des institutions financières, etc., il y a quand même du réel derrière et il faut quand même s'en occuper.
Oui, Pascal ?
Moi, j'appelle ça ouvrir une boîte de Pandore, parce que dès lors qu'on sait que c'est possible, et c'est possible, parce que voilà, ça vient d'être prouvé, ça va être une course pour tous les autres pour essayer de rattraper ce modèle. Donc, à partir de quand la piraterie va y arriver si elle n'y arrive pas déjà? Parce qu'en fait, on part tous du principe qu'ils sont en avance, mais...
On sait rien.
Alors, bon, vu les puissances nécessaires, peut-être que, mais ça ne va pas rester longtemps. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Si ça ne reste pas longtemps, aujourd'hui, notre marché, il n'est pas prêt. Il n'est clairement pas prêt à se défendre contre tout ça. Il y a plein d'anciens codes, entre guillemets, qui est du code actif, mais écrit avec les anciennes façons, sans, j'allais dire bêtement, sans Claude, pour aider à enlever les bugs et les vulnérabilités. Ce code-là, il est en production partout. En combien de temps on va réussir à le patcher? À quel coût? Il va y avoir sans doute un mandat de vitesse, des gens qui vont avoir les moyens de le faire, d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire.
Il faut tester en plus. C'est pas juste le fait d'installer.
Ouais, faut tester tout ça. Donc là, on ouvre une boîte où effectivement, pendant un certain temps, on risque d'avoir un nombre d'attaques qui risque d'augmenter. C'est-à-dire que là, ils ont dit OK, stop, on ne le sort pas tout de suite. Le temps que ça se déverrouille côté attaquant, et là, il va falloir être hyper vigilant et avoir bien développé les process de défense.
Est-ce que ça ne nous projette pas déjà un peu, Benoît Grimwald, dans cette partie, on parle beaucoup du quantique qui va arriver, et justement le chiffrement post-quantique. Le but, c'est de dire bah, aujourd'hui, on a des clés, seul le quantique pourrait les casser. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que le quantique, il n'est pas si loin que ça. On ne part pas à l'horizon 2040 ou 2050.
Oui, le quantique.
Pas pour cette partie-là, en tout cas.
Alors, le quantique n'est finalement pas si loin que ça, mais qui aurait pu prédire que l'IA viendrait voler la vedette au quantique en termes de cybersécurité, et qu'on est aujourd'hui là face à une problématique qui est pas plus grande, mais en tout cas plus imminente et plus globale que celle du quantique. Et on risque de se retrouver dans les organisations, quelles qu'elles soient, Jérôme en parlait, bancaires, étatiques, la base industrielle technologique et de défense qui produit de l'armement en France notamment, va se... potentiellement se retrouver face à un certain nombre de risques et de problématiques qui n'étaient pour l'instant pas encore vraiment envisagées.
Sans compter les données qui auraient pu être récupérées, après on verra ce qu'on se rend compte, mais qui pourraient être lues plusieurs années plus tard, Jérôme.
Oui, les échéances, historiquement, on parlait de 2035, puis là, c'est rapidement revenu à 2030, pour changer l'ensemble des moteurs de chiffrement qui sont cachés dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans les applications d'entreprise. La Google a fait des annonces récentes avec une avancée sur des algorithmes pour casser le chiffrement. On est plutôt à 2029. On est en 2026. 2029, c'est dans 3 ans.
Ça
arrive très vite. Surtout que ce qu'il faut avoir en tête, là, c'est que c'est pareil, ça va consister à aller sur chaque équipement numérique, enlever le moteur de chiffrement, le logiciel de chiffrement, le changer, changer les clés, et c'est très très loin d'être anodin pour faire ça à l'échelle d'une grande entreprise, d'autant plus que les algorithmes nouveaux de chiffrement, ils sont nouveaux. Et donc, qui dit ils sont nouveaux, il y a certainement aussi des failles dedans. Et donc, on va pas, c'est pas, il faut bien avoir en tête, ça va pas être un changement une seule fois. Il faut être ce qu'on appelle dans la crypto-agilité, parce qu'en fait, il faut se préparer, en fait, à changer ces algorithmes de chiffrement de plus en plus fréquemment et d'avoir des patchs de chiffrement comme on a des patchs de systèmes d'information.
Crypto-agilité, patch streaming, voilà, tout est fait dans le... par rapport à cette innovation galopante.
Sachant que là-dessus, nous, on en sait quelque chose, qu'on fait un peu de hardware. Ben en fait, tous les hardware vont pas supporter les algorithmes de chiffrement. Donc, il va falloir changer les hardware, changer les firewalls, changer tout ce qu'il y a de la crypto. Tous les processeurs vont pas réussir à supporter ça. Donc là, on parle d'un changement d'infrastructure colossale.
Au risque de se retrouver non couvert, entre guillemets, par rapport à ces failles pendant quelques temps, quoi, le temps que tout ça.
Oui, probablement. Ouais.
Sachant que l'ordinateur quantique va arriver, au début, il va arriver quand même dans quelques endroits bien déterminés. Il va rapidement être utilisable en mode cloud parce que c'est le modèle économique qui sera adopté. Et donc, voilà, toute la question aujourd'hui, ça va être quelle est la courbe finalement de mise à disposition par rapport à la capacité à absorber des données et ensuite casser le chiffrement. Donc voilà, c'est là où réside encore un peu la question. Mais clairement, 2030, c'est l'horizon à laquelle il faut viser.
Bien, merci messieurs d'être venus parler de tout ça. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir un peu ce chapitre Mythos et rester dessus pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France, Pascal Lodigal, directeur général France de WatchGuard, et Jérôme Bidois, associé cybersécurité chez Wavestone. Merci à tous les trois.